Vous écoutez le podcast Linguisticae. Les noms et prénoms, d'où viennent-ils? Le cas de Rome. Cet épisode a été écrit par Monté de Linguisticae et nous vous souhaitons une bonne écoute. Parfois dans la rue, on me reconnaît. Et lorsque cela arrive, on m'interpelle de cette façon. Hey, « Hé, Linguisticae, salut, mais c'est Linguisticae !» Cela vous semble peut-être normal, anodin. Après tout, je suis désigné ainsi, Linguisticae, puisque c'est le nom de ma chaîne YouTube, le nom sous lequel vous avez peut-être trouvé ce podcast, et c'est un nom qui apparaît sur la couverture de mon livre, c'est aussi celui de mon compte Twitter. De fait, parce que mon travail et ma personne sont indissociables pour le public, Linguisticae est devenu un moyen de me nommer moi en tant qu'individu. Et à une époque donnée, c'est vrai, ça aurait pu suffire à me désigner tout court. Je serais resté Romain, mon prénom de naissance, mais on y aurait ajouté Linguisticae pour me désigner parmi tous les autres Romains. C'est finalement ainsi que l'on a procédé jadis, notamment au Moyen-Âge, pour former les noms de famille. Un métier, une particularité, une fonction ou un lieu de naissance, il n'en fallait guère plus. Vous l'aurez compris, dans ce podcast, nous allons parler anthroponymie, nous allons parler des noms de famille des gens. Si vous êtes européen et de culture occidentale comme moi, vous avez un ou plusieurs prénoms, le premier étant le plus important et significatif et probablement le seul dont vous ayez besoin au quotidien. Le tout est complété par un nom de famille, éventuellement composé, qui sert à vous reconnaître et qui est hérité de vos parents, le plus souvent de votre père. Et dans l'extrême majorité des cas, cela ne va pas plus loin. Pourtant, cette réalité, ce n'est pas celle de tous. Rien qu'en Europe, l'ordre est variable. Le prénom est, comme son nom l'indique, souvent mis avant, c'est le sens du préfixe « pré », mais il l'est aussi parfois après. En Hongrie, par exemple, et même dans la francophonie, où l'ordre est changeant. Sur bon nombre de documents officiels français ou lors d'épreuves scolaires, le nom est souvent le premier à apparaître. Et ça a du sens, c'est le meilleur moyen de vous identifier au sein de votre génération ou de votre groupe. Pour cette raison, le nom précédent, toujours le prénom, est une façon très courante de procéder dans le monde, notamment en Asie, puisque la Chine, le Japon et la Corée procèdent notamment de cette façon. Pour revenir sur notre tour d'Europe, plusieurs de nos voisins ont des traditions particulières en lien avec les noms de famille. Rien que par-delà les Pyrénées, en Espagne, où traditionnellement le nom est composé du premier nom du père suivi du premier nom de la mère. Et lorsque l'on est une femme, ces noms ne changent pas lors du mariage. Chez les Slaves de l'Est, l'ordre et la logique n'est pas très différente du reste de l'Europe. En revanche, entre le prénom et le nom s'insère un patronyme, un vrai, c'est-à-dire le prénom du père, qui se décline différemment au masculin et au féminin. Ainsi, les femmes et les hommes ont des patronymes différents en Russie, en Ukraine ou en Biélorussie. Vladimir Poutine s'appelle en réalité Vladimir Vladimirovitch Poutine, parce que Vladimir était aussi le prénom de son père. Maria Sharapova, quant à elle, s'appelle Maria Yurievna Sharapova, son père s'appelant Yuri. L'exemple le plus parlant concerne peut-être l'ancien tennisman Marat Mubinovich Safin, frère de l'ancienne numéro 1 mondiale de tennis féminin, Dinara Mubinovna Safina. L'existence du patronyme n'est pas quelque chose de récent ni de particulièrement exotique. Le fait de se dire « un tel fils d'un tel » ou « un tel fille d'un tel », eh bien ça a été l'une des façons les plus courantes et les plus anciennes de se définir en Europe. Les noms de famille qui finissent par « son » au Danemark ou par « son » en Suède en sont des vestiges. Jensen, fils de Jens. Svensson, fils de Sven. En réalité, en Scandinavie, la majorité des noms de famille les plus courants sont tous de cette origine. Andersson, Peterson, Hansen, Andersson, Nilsson, Nilsson. Ces noms se sont imposés comme noms de famille au XIXe siècle, mais les pays scandinaves permettent toujours, pour la plupart, légalement de faire remplacer son nom de famille par un nom patronymique. Chez les Islandais, notons que le nom patronymique est toujours d'usage, en lieu et place du nom de famille. C'est ainsi que le président de la République d'Islande, Ólafur Grímsson, est, comme son patronyme l'indique, fils de Grimm. L'ancienne présidente Vigdís Finnbogadóttir, quant à elle, est la fille d'un certain Finnbogi, Dóttir signifiant « fille de ». De fait, et parce qu'il existe cette particularité en Islande, eh bien vous vous appelez là-bas surtout par votre prénom, et c'est ainsi qu'on vous trouve dans l'annuaire. Ailleurs dans le monde, le patronyme a laissé de nombreuses traces. En Irlande, ce sont les Mac et les O, McIntosh, McMahon, O'Brien, O'Hara. En arménien, ce sont les Yann, Kardashian, Manoukian. En Espagne et au Portugal, ce sont les Es ou les S, les Is ou les Is, les Os ou les Os. Fernandez, Fernandez, fils de Fernand. Ruiz, Ruiz, fils de Rui. Marcos, fils de Marco. Dans le monde arabe, on trouve la même chose avec Ould ou Ibn. ce dernier devenant plutôt Bin ou Ben, comme dans Ben Youssouf, fils de Youssouf, Ben Ali, fils d'Ali. Vous êtes peut-être actuellement en train de vous rendre compte qu'en réalité, une chose aussi usuelle et courante que le nom de famille n'est pas du tout universel ou atemporel. Et pour cause, les noms de famille sont apparus récemment dans certaines régions du monde, comme le Japon qui en impose l'usage au 19e siècle, et ils sont réapparus en Europe alors qu'ils avaient cessé d'exister à partir de la fin de l'Antiquité. Puisque, effectivement, rappelons-le, les Romains avaient des noms de famille et ils les utilisaient. Aujourd'hui, dans la société française, le nom de famille est très codifié. Il est même extrêmement encadré par la loi, puisque le nom et le prénom sont liés à l'état civil. Ils servent à vous identifier, vous suivre, vous retrouver. C'est peut-être même là l'une des pierres angulaires de notre civilisation. De fait, si le nom touche à la langue, il touche surtout à la loi. La conséquence, et même si cela peut sembler contre-intuitif, c'est que des pays de même tradition et de même langue peuvent avoir des lois différentes en la matière. Prenons par exemple le cas du Chili et de l'Argentine. Au Chili, comme en Espagne, un enfant possède deux noms de famille. En Argentine, même si c'est aussi dans l'usage, eh bien, seul celui du père est officiellement enregistré. Allons même encore plus loin. Il existe un certain nombre de peuples ou de groupes vivant à cheval sur deux états. Fatalement, ils peuvent suivre des règles différentes en fonction de leur lieu d'habitation. Chez les Basques, par exemple, ceux d'Espagne ont deux noms de famille, alors que ceux de France n'en ont qu'un seul, puisqu'ils doivent chacun suivre les règles des états où ils sont nés. Ce n'est pas la seule différence, d'ailleurs. Au-delà de cette problématique demeure aussi celle de l'orthographe, puisqu'il existe des problèmes propres à l'écriture des noms. Prenons un cas pratique. Au Pays Basque, toujours dans la partie française, une habitante n'a pas pu léguer la tilde de son nom espagnol, Ibáñez, à son fils. Cette impossibilité est due au fait que la tilde serait un signe diacritique étranger à la langue française. Pourtant, il existe des langues régionales reconnues comme telles et enseignées sur le sol français qui en font l'usage, comme le breton. Mais dernièrement, un prénom breton arborant la tilde a lui aussi été refusé, et ce pour le même motif. Cela avait donné lieu à une affaire désormais bien connue des juristes, l'affaire Fanche, avec une tilde sur le N. C'est après une longue procédure qu'enfin, 2 ans après sa naissance et après plusieurs refus de la justice, que l'enfant est enfin autorisé à porter ce prénom. Notons que, si vous l'ignoriez, Fanche est un prénom breton assez courant et ayant été porté par de nombreuses personnalités bretonnes, sans que cela ne pose problème jusque-là. Dans cette affaire Fanche, l'argument de l'État français était alors le suivant. Une circulaire datant de 2014 rappelait les choses suivantes. Les prénoms doivent être écrits en alphabet romain et ils ne peuvent avoir comme signe diacritique que les points, les trémas, les accents et la cédille. Un argument irrecevable pour beaucoup puisque nombre de cédilles ou d'accents ont eux-mêmes été refusés par l'État civil lorsqu'il s'agissait de noms ou de prénoms considérés comme étrangers. Vous avez peut-être vous-même croisé des Goncalves, c'est-à-dire des personnes d'origine portugaise appelées Gonçalves, à qui la cédille avait été retirée. Plus récemment, il a été refusé à une famille d'appeler son enfant Marty avec un accent sur le i, variante catalane de Martin, et bien qu'il ait été théoriquement possible, selon cette circulaire, de le faire. L'argument, là aussi, est simple. Il s'agit de préserver l'unité du pays et éviter les orthographes différentes pour un même nom en fonction des administrations. Là aussi, l'argument de l'administration paraît assez faible. Parce que les orthographes multiples et concurrentes pour un même prénom, c'est monnaie courante. Sans parler des nouveaux prénoms, qui sont nombreux à afficher des Y, des trémas ou des H, plusieurs prénoms français traditionnels, bien placés sur notre calendrier républicain, possèdent des orthographes multiples. Philippe avec un ou deux L, un ou deux P. Michel, au féminin, écrit E accent grave LE ou E deux LE. Mathieu, avec ou sans H, avec un ou deux T. Matisse, avec les mêmes raisons et les mêmes problèmes, mais qui en plus peut s'écrire avec un Y, avec deux SE. Bref, ça existe depuis longtemps, et jusque-là, ça ne gênait personne. Vous l'aurez compris, la France est particulièrement zélée lorsqu'il s'agit de combattre les prénoms d'origine régionale. Dernièrement, un prénom a été refusé par l'État civil au motif qu'il avait une apostrophe. Encore une fois, il s'agissait d'un prénom breton. Pourtant, là encore, l'apostrophe est un caractère utilisé en français qui existe sur nos claviers et qui existe même dans certains noms de famille, comme ceux qui sont à particules ou ceux qui sont d'origine bretonne, précisément. Toute cette situation pose question, puisqu'en revanche, l'État français n'a aucun problème avec les prénoms d'origine étrangère lorsqu'ils ont une orthographe sans accent, sans apostrophe, mais dont la prononciation est à milieu de leur lecture française. Parce que, vous l'aurez constaté, personne ne s'insurge lorsque des enfants portent des prénoms anglo-saxons dont la prononciation ne respecte absolument pas les règles du français. On voit mal l'État civil refuser que l'on s'appelle Brian ou James, au motif qu'il faille sauvegarder l'unité du pays. Il n'a pas l'air non plus de choquer que le prénom Enzo, qui est italien, soit l'un des plus populaires chez les moins de 20 ans. Le prénom et le nom sont aussi, que ce soit assumé par les personnes les portant ou les attribuant, ou que ce soit aux yeux de l'État qui le refuse, quelque chose de politique, car quelque chose de culturel. L'immigration, l'expatriation ou même le voyage est l'un des moyens de se rendre compte qu'un nom de famille, sa façon de se nommer, ça n'a rien d'anodin ni d'universel. Avec ou sans patronyme, avec ou sans nom de famille, avec un ordre changeant ou une orthographe à adapter, franchir une frontière peut vous conduire à vous définir autrement. Ainsi, nombreux sont ceux qui, par facilité, adoptent à l'étranger un second prénom ou une toute nouvelle façon de se prénommer. Par souci de compréhension ou d'intégration, ou par flemme de recorriger les mauvaises prononciations, beaucoup adoptent aussi les orthographes tordues ou les coquilles que l'administration ou les locaux leur ont attribuées. Combien de Serbes appelés Petrovic, avec un accent aigu sur le C, sont devenus des Petrovic une fois arrivés en France, en Allemagne ou en Angleterre? Combien de Romains, mon prénom à moi, ont décidé de changer en Roman pour éviter d'être appelés Romain ou Romaine ou ce genre de choses, et pour faciliter l'épellation? Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez-nous sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. En espérant que vous avez passé un bon moment, c'était le podcast Linguisticae. Nous vous souhaitons une bonne soirée.